Il intercède pour nous. On peut avancer aussi, s'il vous plaît. Et la troisième chose que nous avons dans ce texte, ici, que nous avons vu la semaine dernière, c'était les provisions d'amour qui est maintenant contre les puissances spirituelles. Nous avons vu cela, qu'il y avait Satan qui était là pour nous accuser et nous condamner. Christ intercède pour nous et nous garantit justement sa protection. Et pour perdre notre sécurité, il faudrait que l'intercession de Christ échoue. Il y a un beau texte qui nous dit que c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, en étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, sécurité, sécurité, sécurité. Et maintenant, nous arrivons ce matin au verset 35 à 39, qui est la deuxième volée dans les provisions d'amour. Où est-ce que nous avons l'amour de Christ maintenant pour nous, qui nous garantit la persévérance face à l'adversité venant les circonstances de la vie. Et nous allons lire notre texte, Romains 8, verset 35, où Paul pose cette question: qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, dit Paul, J'ai l'assurance. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous pourrions tous dire Amen. Ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois aspects, alors, de l'amour de Christ, qui permettent aux croyants de persévérer. C'est notre thème pour ce matin, la persévérance du croyant. Alors, dans un premier temps, la persévérance du croyant est garantie à cause d'une relation d'amour qui a été restauré entre Dieu et le croyant, et une relation restaurée dans la passion. Une relation qui a été restaurée dans la passion. Regardez votre texte encore, si vous voulez, au verset 35. Paul va dire ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ. Et j'aimerais prendre quelques instants pour focaliser sur cette expression, l'amour de Christ. S'agit-il de l'amour de Christ pour nous ou de notre amour pour lui? Il faut comprendre ici que l'apôtre Paul est en train de parler de l'amour de Christ pour nous et non pas le contraire, parce que notre amour pour Christ, si nous sommes honnêtes, est souvent instable, vacillant, mais son amour pour nous est toujours constant. Et dans un deuxième temps, devrions-nous lire dans ce texte amour de Christ ou amour de Dieu? Parce que à la fin du verset 39, nous avons le texte dit ceci: aucune autre créature qui ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et les commentateurs nous disent qu'il y a un texte grec alors qui traduit ce texte ici, qui nous séparera de l'amour de Dieu, et d'autres textes, un autre texte grec qui combine les deux, et on peut lire qui nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Question que je vous pose, est-ce que c'est-tu vraiment important, ça? Savons que Dieu nous aime. Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous savons que Christ nous aime, Galates 2, 20, où Paul va dire ceci, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous savons que Christ est Dieu. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, l'amour de Christ et l'amour de Dieu parce que Christ est Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul voudrait établir ici? Dans un premier temps, c'est que le croyant, l'élu, est sécure dans l'amour de Christ, de Dieu pour lui. Il est sécure dans cet amour. Et pourquoi? J'aimerais vous donner quelques attributs de cet amour qui nous démontrent justement qu'il y a une sécurité dans l'amour de Christ, l'amour de Dieu pour le croyant. Alors, dans un premier temps, l'amour de Dieu, un des attributs de l'amour de Dieu pour le croyant, c'est que c'est un amour qui est tout à fait spécial. Un amour qui est tout à fait spécial. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un amour spécial qui découle justement de la souveraineté de Dieu. Et dans un texte qu'on trouve dans Deutéronome 7, 6, 8, pas besoin d'y tourner, mais Dieu va dire quelque chose à propos d'une relation d'amour qu'il avait établie avec la nation d'Israël. Écoutez bien le texte. Ce n'est point que parce que vous vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'attache à vous et qu'il vous a choisi. Mais quoi? Parce que l'Éternel vous aime. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'établir une relation d'amour spéciale avec Israël, la nation qu'il avait choisie. Et nous voyons aussi la même chose dans le Nouveau Testament. À propos du croyant, dans Jean 13, verset 1, Jésus va dire ceci. Le texte nous dit qu'avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé, qui? Les siens qui étaient dans le monde. Alors, certes, nous avons ce qu'on appelle un amour général. Dieu a tant aimé le monde. Mais les siens bénéficient d'un amour spécial venant de lui. On peut faire une parallèle avec sa grâce. Dieu, dans sa grâce, fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Mais pour ses élus, il leur accorde une grâce spéciale. Une grâce spéciale. Alors ici, nous avons un amour spécial que Dieu va accorder et va donner à ses enfants. Deuxièmement, cet amour est sûr, est sûr. Dans Jérémie 15, 16, Dieu va dire à Israël, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je conserve ma bonté. Mon amour pour vous est éternel. Il est sûr. Alors, je vais conserver ma bonté envers vous. » Et dans Jean 13, 1, le verset parallèle avec cela, pour le croyant, on vient de citer ce texte. Jésus, sachant que notre honneur était venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, alors écoutez bien ce que le texte dit. Il mit le comble de son amour pour eux. Littéralement, il les a aimés jusqu'à la fin. Et même dans son âge le plus difficile, avant d'aller à la croix, les disciples pouvaient toujours compter sur l'amour de Christ pour eux. Un amour qui est sûr, qu'importe les circonstances. Troisièmement, c'est cet amour qui est spécial, qui est sûr, c'est un amour aussi qui est sacrificiel, prêt à faire des sacrifices pour celui qui est l'objet de cet amour. Et on connaît tous le beau texte dans Jean 15, 13, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est jusqu'à quel point le Seigneur nous a aimés. Et finalement, quatrièmement, cet amour est solide. Solide. Pourquoi? Parce qu'il nous vient du Père. L'amour vient du Père. 1 Jean 4, 9, 10 nous dit ceci. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors Dieu nous aime. C'est l'amour aussi qui vient du Fils. Dans Jean 15, 9, Jésus va dire à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Alors nous sommes aimés par le Père, nous sommes aimés par le Fils. Et troisièmement, nous sommes aimés par le Saint-Esprit. Dans Romains 5, 5, Paul enseigne ceci, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus solide que cela? Un amour venant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un texte dans Ecclésiastes 4, 12 qui nous dit que la corde a trois fils ne se rompent pas facilement. Et parce que cet amour est spécial, il est sûr, il est sacrificiel et solide, et parce qu'il nous vient de Dieu, un Dieu qui n'aime pas avec des demi-mesures, laissez-moi vous dire ce matin que si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, vous êtes aimé de façon passionnée. Vous ne pourrez jamais imaginer la passion que Dieu a pour nous, les objets de son amour. Quelqu'un a bien dit que Dieu est le plus grand amant dans tout l'univers. Et ce matin, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes revêtu de la justice de son Fils. Et qu'importe vos difficultés, vos faiblesses, vos manquements, vos lacunes, même vos péchés, Dieu vous voit à travers la justice de son Fils. Et pour utiliser un langage d'amour qu'on trouve dans Cantique des Cantiques, justement ce livre d'amour, où est-ce que Salomon va dire à son épouse que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Et j'imagine le Seigneur Jésus-Christ regarde son épouse telle que nous sommes ce matin. Dieu voit aussi cette épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblable, glorieuse. Et Dieu dit, que tu es belle, que tu es belle. Et c'est pourquoi il dit, je t'aime, d'un amour éternel. Évidemment, si on est en train d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Je vous aime, Dieu est en train de nous dire, j'ai payé cher pour restaurer cette relation brisée qui existait entre vous et moi, et maintenant vous êtes à moi. Psaume 100 nous dit ceci, nous lui appartenons. Et puisque nous sommes à Dieu, on peut être certain qu'il ne nous lâchera jamais, 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 parce que son amour pour nous est éternel. Quel amour! Quelle passion! Et en lisant cela, en me préparant cela, il a fallu que je me pose la question que je vous pose maintenant. Est-ce que, pour nous, est-ce que c'est réciproque? Avons-nous une faim, une soif pour connaître justement l'amour que Dieu a pour nous? Éphésiens 3, 17 nous dit ceci, que Paul il va prier, justement, c'est un besoin chez le croyant. Et Paul va prier pour les chrétiens à Éphèse en disant qu'ils demandent à Dieu qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour afin de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'il en soit ainsi, pour sa gloire. Aimer de façon passionnée, avec un amour qui nous dit, je vous aime d'un amour éternel. Et quelle sécurité de savoir qu'on est justement aimé de cette manière. Mais deuxièmement, non seulement la persévérance du croyant est garantie à cause d'une relation restaurée dans la passion, mais aussi à cause d'une relation qui résiste à la pression. Et c'est ce que nous avons au verset 35. Paul va poser cette question ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question qui est tout à fait pertinente. Et la question qui se pose dans cette relation que Dieu a établie avec le croyant, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui pourrait la briser? Est-ce que quelque chose qui pourrait amener justement à un divorce? D'ailleurs, c'est ce que le mot « séparer », si vous regardez dans un dictionnaire, dans le texte original, le mot « séparer », une des significations, c'est « divorcer ». Et Paul pose cette question parce qu'il sait que dans toute relation, tôt ou tard, il y a des événements ou des circonstances qui vont tester justement la relation. Et le résultat sera un indice de la force de cette relation. Et dans le contexte ici, l'implication, c'est que notre foi dans l'amour de Dieu pour nous va être testée, sera testée. La question que Paul se pose alors, y a-t-il un événement, une circonstance quelconque qui pourrait vaincre notre foi et amener la rupture dans la relation? Christ est fidèle. On le sait, on ne s'en doute pas. Il va garder toujours son engagement envers nous, mais qu'en est-il de nous? Notre engagement envers j'aimerais répondre à cette question et ensuite je vous dirai pourquoi j'en pense ainsi. Je crois sincèrement que la foi authentique acquise par le sang de Christ et donnée par grâce, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. La grâce de croire est un don de Dieu. Alors, cette foi-là que nous avons reçue, comme j'ai dit, je crois sincèrement que cette foi ne peut être jamais, jamais vaincue. Et je vous donne deux raisons pour cela. Dans un premier temps, c'est ce que le livre de Job enseigne. Vous voulez voir quelqu'un qui a été éprouvé dans cette relation d'amour? Alors, étudiez le livre de Job. Et malgré toutes les souffrances qu'il a subies venant des attaques de Satan, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu sa santé. Malgré tout cela, Job n'a jamais maudit Dieu comme sa femme lui a suggéré de faire. Mais plutôt, il s'est exclamé dans Job 13:15, « Voici quand même qu'il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Et ça, c'est une foi authentique. Et ça, c'est une foi que même Satan n'était pas capable de vaincre. Job n'était pas un surnaturel, un surhomme, un super spirituel. Mais qu'est-ce qui caractérisait Job? C'est parce qu'il avait une foi authentique. Et que Satan n'était pas capable, justement, de briser et de vaincre cette foi. La deuxième raison, c'est parce que nous avons un beau verset qui est dans 1 Corinthiens 10:13. Qui est une consolation pour moi, et je suis certain aussi que souvent est une consolation pour vous. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas, croire que vous soyez éprouvés ou testés au-delà de vos forces. Si vous voulez, il ne va pas permettre que votre foi soit vaincue. Il ne va pas le permettre. Mais avec la tentation, l'épreuve, Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter et sortir vainqueur. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous suggère de lire le 11e chapitre d'Hébreux, les héros de la foi, pour voir ce que la foi authentique peut accomplir face à l'adversité. Je vous cite quelques versets. En parlant justement de ces héros de la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, des chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, etc., etc. Mais, leur foi n'a jamais été vaincue. Quelle persévérance! Et Paul nous met dans le même contexte ici dans Romains chapitre 8 en posant cette question. Il va citer maintenant les circonstances. Qu'est-ce que la vie peut nous amener pour tester notre foi pour que, justement, notre foi soit vaincue? La réponse est absolument rien. Et là, il va maintenant dresser une liste. Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, épée, etc. Le temps ce matin ne me permet pas de faire une étude exhaustive de chacun de ces termes, mais juste commenter quelques-uns de ces termes. Vous avez la tribulation. Ça, c'est un terme qui veut dire une pression, une oppression, des difficultés de tout genre. C'est ça, c'est l'adversité commune à tous les hommes, parce que nous vivons dans un monde déchu. Dans Genèse chapitre 3, oui, c'était le paradis, tout était beau et tout était très beau. Et quand Dieu regardait cela, oui, Dieu était justement satisfait et tout était très beau. Très bon, mais à travers, après Genèse chapitre 3 et ainsi de suite, nous avons la chute et on est dans le monde. Et comme on dit en anglais, « bad things happen to good people ». Des mauvaises choses qui arrivent même aux chrétiens. Jésus a dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que moi j'ai vaincu le monde. » Angoisse, dans le sens originel, veut dire être dans un endroit étroit, être confiné. C'est comme si les pressions de la vie là, nous écrasent. Puis là, on est là, on est pris. On ne peut pas bouger. Ça, c'est des angoisses. La persécution, ça peut être le rejet, les moqueries, les abus physiques, tout ce que les incroyants font subir aux croyants à cause de leur relation avec Christ. Et là, vous avez les autres, la faim, la nudité, les périls, bref, tout ce que la vie peut nous amener. Qu'est-ce que vous voulez, la cochonnerie de la vie, là, qui peut nous amener pour tester notre foi. Et la question que Paul se pose, il utilise une illustration tirée de l'Ancien Testament dans Psaume 44 pour souligner le pire scénario. Ce n'est pas nouveau, Paul dit. Ça existait même dans le temps des Israélites, des Samis, étaient devant la même situation, Psaume 44, selon ce qu'il est écrit. C'est à cause de trois qu'on nous mène à la mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. La question, est-ce que notre foi va craquer dans de telles circonstances? Et Paul va répondre par un non catégorique. Mais, dans toutes ces choses, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. La foi du croyant est testée, mais le croyant en sort non pas vaincu, mais vainqueur. Et bien plus que vainqueur. C'est un mot qui existe seulement ici dans le Nouveau Testament. Et Paul, il a inventé pour justement nous amener à dire que c'est plus que, c'est le top que nous sommes plus que vainqueurs. Et la question se pose maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir plus que vainqueur dans l'adversité? Je vous donne rapidement trois aspects de qu'est-ce qui arrive quand on est dans l'adversité. Et une foi authentique qui est devant l'adversité. Dans un premier temps, l'adversité va produire une purification. Et là, il y a un texte dans 1 Pierre 1:6 qui nous dit ceci. Il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors ça, c'est ce que l'adversité fait. Comme le feu éprouve le métal, l'or, et le purifie, et fait briller justement l'or, et ne consomme pas le métal, parce que c'est authentique, c'est vrai. Alors l'adversité aussi va séparer justement les hommes puis les garçons. Les vrais authentiques chrétiens, ils vont persévérer. Ceux qui ne sont pas les vrais, ils vont reculer. Matthieu chapitre 13, quand le Seigneur parle justement de les semences, il y a quelques-uns qui reçoivent justement la parole avec joie. Et qu'est-ce qui arrive quand il survient une tribulation? Ils reculent parce qu'il n'y a pas de racines. Mais le vrai foi authentique est purifié par le feu, par de l'adversité. Et le chrétien en sort vainqueur. Gloire à Dieu. Deuxième chose, l'adversité produit aussi la persévérance. Romains 5:3, le texte nous dit, nous nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est comme l'entraînement. Un athlète s'entraîne, il veut justement être capable de courir le marathon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va subir un entraînement qui est rigoureux. Et ça lui donne la persévérance. Mais que l'adversité, quand ça vient, ça fortifie nos muscles spirituels et produit la persévérance. Et Paul va dire, et cette persévérance, la victoire dans l'épreuve. Vous allez sortir vainqueur, et plus que vainqueur. Parce que c'est ce que l'adversité fait. À la foi authentique, ça renforcit le chrétien. On s'approche plus de Dieu, les prières sont plus ferventes, la lecture de la parole est plus stimulante. Et troisièmement, l'adversité produit du profit. Là, Dieu est extraordinaire. Il va prendre ces mauvaises choses qui nous arrivent. 2 Corinthiens 4, 16, 17 dit ceci. Même si notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Avant de quitter ce point, j'aimerais juste vous faire remarquer une chose. Verset 37, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la clé. Par celui qui nous a aimés. Nous allons persévérer dans l'adversité à cause de Christ. Et ce que nous avons ici, là, c'est cette liste, tribulation, angoisse, persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Ça, c'est un résumé de la vie de Paul. Si vous lisez 2 Corinthiens 11, 23, 27, vous allez voir. Paul, il sait de quoi il parle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ma grâce, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et quand nous sommes dans l'adversité, la grâce de Dieu est toute suffisante pour nous faire vaincre. Et nous pouvons à la fin dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ce matin, si vous avez des difficultés dans l'adversité, vous êtes peut-être dans l'adversité, j'aimerais vous recommander à la toute suffisante grâce de Dieu. Et finalement, et je vois que le temps file, je dois avancer, une relation qui est ratifiée par la permanence, la persévérance du croyant, est garantie à cause d'une relation qui est ratifiée par la permanence. Regardez votre texte, Paul va dire ici, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer, etc., etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul, il est confiant, il a dit, il n'y a rien, absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et juste, j'aimerais vous montrer ici qu'il y a quelque chose de spécial dans ce que Paul est en train de dire, parce que quand vous avez l'amour, il y a quelqu'un qui aime et vous avez un objet d'amour. L'amour est focalisé sur un objet. Et quand cela arrive, il y a, dans la parole de Dieu, vous allez voir, il y a l'attachement entre celui qui aime et l'objet d'amour. Je vous donne juste quelques textes. Dans Genèse 2, 24, quand Dieu a formé Ève, c'est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien entendu, il aime sa femme. Ça, c'est dans Éphésiens. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, dans cette relation entre épouse et époux, il y a un attachement qui est là. L'homme s'attachera à sa femme. Genèse chapitre 44, il y a Jacob qui est resté en Canaan. Il y a les frères de Joseph qui sont en Égypte. Et là, il y a Benjamin avec eux autres. Et là, Joseph il est en train de les faire voir un mauvais quart d'heure. Et là, il y a Judas qui panique parce qu'il dit, « Si Benjamin reste ici, là, puis je ne rapporte pas à mon frère, à qui l'âme de son père est attachée à son âme. Il va mourir. Jacob, il va mourir. » Et encore, on a le même principe là. Jacob aimait Benjamin et Joseph aussi parce que ce sont des fils de l'épouse qui était aimée, Rachel. Dans le texte que nous avons lu, il y a un autre texte aussi avec David et Jonathan. Un bel exemple. Jonathan aimait David et nous lisons que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David parce que Jonathan l'aimait comme son âme. Et quand on a vu dans ce texte de Deutéronome, où est-ce qu'on nous dit que ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous, mais c'est parce que l'Éternel vous aima. Et finalement, dans Éphésiens, quand on parle de Christ et l'Église, Paul dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, j'aimerais juste souligner, en terminant, que quand il y a un objet d'amour, il y a quelqu'un qui aime, il y a ce qu'on appelle un attachement. La Bible l'enseigne. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici maintenant. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est plus que juste des paroles. Christ s'est attaché à nous comme Église. Il est attaché. Et la question maintenant qui se pose, il y a quelqu'un, quelque chose, quelqu'un qui peut briser cette relation-là. Et là, il va nommer toutes ces choses. Mort, vie, ange, domination, choses présentes, choses à venir, les puissances, hauteur, profondeur, aucune autre créature. Il dit, même si j'ai oublié quelqu'un, là, je mets aucune autre créature, au cas où. Sa réponse, c'est que non. Non, non, impossible, can't be done. Tu ne peux pas briser cette relation. Alors, on a commencé avec condamnation, aucune condamnation. On termine avec aucune séparation. Et je vous cite un verset en Jean 10, 28. Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Je donne la vie éternelle et elle ne périra jamais et personne ne les ravira de ma main. Ils ne périront jamais, aucune condamnation, parce qu'il n'y a aucune séparation. Il n'y a rien, absolument rien qui peut briser l'attachement entre Christ et son Église. Absolument rien. Alors, si ce matin, vous êtes chrétien sauvé par la grâce de Dieu, pouvez-vous vous dire comme Paul, j'ai l'assurance. Je suis persuadé, Paul dit. Je suis persuadé. J'ai de l'assurance. Certain à 100% qu'il n'y a absolument rien qui peut me faire perdre mon salut. Ferme, solide, inébranlable. Dieu nous tient dans sa main. Par sa grâce, nous allons persévérer parce que la foi authentique persévère. Si tel est notre cas, mais rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Il y aura des combats, il y a des conflits, mais vu que notre foi est authentique, une foi authentique, persévère. Et Dieu aussi va nous garder. Et si vous êtes troublé ce matin, ou bien quelqu'un vous a troublé, vous avez été enseigné, oui, qu'on peut perdre le salut, mais je vous invite à repasser ces textes. dans la prière et demandez au Seigneur de vous donner justement une meilleure compréhension de votre salut. Il n'y a rien de plus qui nous libère plus de savoir que nous sommes en sécurité entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et entre les mains de Dieu. Et il a dit, personne ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il dit dans Jean chapitre 10. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Et finalement, si vous ne pouvez pas dire, j'ai l'assurance parce que vous n'êtes pas sauvés, alors vous ne pouvez pas avoir l'assurance. Alors ce serait le temps ce matin de chercher la face du Seigneur. Confessez vos péchés. Au pied de la croix, Christ est mort, il a versé son sang. Et ce matin, il vous invite de venir recevoir son pardon. Et vous pouvez quitter ce lieu ce matin, joyeux et rempli justement de reconnaissance. Et vous pouvez dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il revienne jusqu'à ce jour. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait tellement du bien. Merci pour ta grâce. Merci pour ta persévérance avec nous. Merci pour aussi cette consolation que tu nous donnes, que malgré nos imperfections, nous allons persévérer. Parce que tu nous aimes et tu as dit, je vous aime d'un amour éternel. Seigneur, nous te prions que tu nous fortifies alors. Aide-nous aussi de t'aimer en retour. Mettre en pratique ce premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Seigneur aussi que nous puissions avoir l'amour les uns pour les autres. Sépare-nous maintenant avec ta bénédiction, Seigneur, et garde-nous. Comme tu le fais si bien, demandant ces choses au nom de Jésus. Amen.